Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, très bon réveil à tous, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une nouvelle étape dans l'enquête sur la mort du petit Émile. Des dizaines d'ADN en cours de prélèvement. Les enquêteurs passent au crible tous les habitants et les vacanciers présents au Haut-Vernay le jour de la disparition. La Russie était-elle derrière le drone abattu en Suède, neutralisé près du porte-avions français Charles de Gaulle? L'enquête est en cours. Et puis le rêve européen continue pour le LOSC, qualifié en 8e de la Ligue Europa en battant Belgrade 2-0 grâce à un Olivier Giroud, très en forme.
L'enquête sur la mort du petit Émile entre dans une nouvelle dimension.
On ne sait toujours pas ce qui est arrivé au petit garçon près de 3 ans après sa disparition dans le hameau du Haut-Vernay. Alors les juges d'instruction élargissent le spectre. Pierre Bazin, service police-justice d'RMC, il lance une grande campagne de prélèvement ADN.
Oui, dans les prochaines semaines, plusieurs dizaines de personnes vont être sollicitées pour effectuer des prélèvements ADN afin de comparer les résultats avec les traces retrouvées notamment sur les vêtements du petit garçon. Selon les informations de nos confrères de BFM TV, des prélèvements ont déjà été effectués sur 4 personnes résidant dans le hameau du Haut-Vernay. Au total, ce sont plusieurs dizaines d'hommes et de femmes qui vont être concernés par cette opération puisque tous étaient présents ou de passage au moment de la disparition du petit garçon de 2 ans et demi. Il s'agit donc d'habitants, de voisins, mais aussi de vacanciers qui auront rendez-vous dans une gendarmerie proche du Haut-Vernay. Cette vaste opération fait partie des actes d'enquête qui ont été réclamés par les grands-parents d'Émile. Toutefois, une source proche du dossier précise à nos confrères de BFM TV que cette opération était prévue de longue date par les magistrats instructeurs.
Un mini remaniement du gouvernement. Il fallait remplacer plusieurs ministres candidats aux municipales. Il y a donc un peu de changement à noter ce matin. Thomas Becker, 4 nouveaux membres du gouvernement. Ce sont des proches d'Emmanuel Macron, à commencer par la remplaçante de Rachida Dati au ministère de la Culture.
Oui, c'est Catherine Pégard, jusqu'ici conseillère culture du président de la République. Elle a dirigé le château de Versailles entre 2011 et 2024. Dans cet ajustement, un retour, celui de Sabrina Agresti-Roubache, nommée à l'enseignement professionnel, une très proche du couple Macron qui avait dû quitter le gouvernement, battu aux législatives en 2024. Les 2 autres nommés viennent de l'Assemblée nationale. La macroniste Camille Galliard-Migniers sera en charge du handicap. Jean-Didier Berger aura lui un portefeuille sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Même sort que les autres ministres LR, il sera sanctionné par son parti pour avoir rejoint le gouvernement. Dernière modification, Maud Bréjon, la porte-parole, sera aussi chargée de l'énergie. Un élargissement du portefeuille pour cette ministre qui était ingénieure nucléaire dans le privé.
Pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon était à Lyon. Hier soir, le leader de la France Insoumise, en soutien à sa candidate à l'élection municipale de Lyon, Anaïs Belloissa-Cherifi. Meeting dans la ville où est mort le militant nationaliste Quentin Durand qu'il y a 2 semaines. Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé hier son soutien au mouvement antifasciste La Jeune Garde. Sonia Gobry, il s'est montré très offensif.
Sur scène, Jean-Luc Mélenchon donne d'emblée le ton.
Criez ce qui vous amène ici. Résistance ! Nous sommes tous antifascistes !
Devant des militants galvanisés, le leader insoumis se lance dans une longue diatribe contre les médias, ses adversaires politiques. Il réitère son soutien à la Jeune Garde. Aucune remise en question, pas un pas en arrière. Les militants comme Claude et Léna applaudissent.
Nous, on ne cède pas. Et je veux dire, les périodes difficiles, c'est là où on se serre les coudes. Okay.
La seule solution face aux attaques qu'on subit tout le temps, c'est de rester groupé.
Jean-Luc Mélenchon consolide sa base, mais à force d'outrance, il fait fuir aussi. Younes reconnaît d'ailleurs que certains de ses amis ne votent plus LFI.
Moi, j'essaie de les rassurer en leur disant qu'il ne faut pas avoir peur de la France insoumise parce qu'elle est plus à gauche que d'autres. Parce que je pense justement que les Français, et notamment les gens qui votent déjà à gauche, qui hésitent à voter à gauche, ont besoin de changement, un petit peu de radicalité.
Ces militants insoumis estiment comme leur leader que maintenant, le combat politique se mêle entre eux et l'extrême droite.
Et vous, qu'en pensez-vous? Le soutien réitéré par Jean-Luc Mélenchon hier à la Jeune Garde, un certain nombre de diatribes, de hargne, est-ce que le ton de Jean-Luc Mélenchon vous fait désormais peur? 63% des Français disent désormais qu'il ferait davantage barrage à la France insoumise qu'au Rassemblement national. Et vous, réagissez, je vous attends évidemment au 32-16 si vous voulez défendre Jean-Luc Mélenchon ou au contraire dire qu'il vous fait peur, je vous attends.
La piste russe est envisagée après qu'un drone a été intercepté près du porte-avions français Charles de Gaulle, porte-avions à quai en ce moment en Suède, à Malmö, sur lequel se rend d'ailleurs aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. C'est donc près de ce porte-avions qu'un drone a été abattu avant-hier, sans que l'on sache encore s'il était hostile ou malveillant. Son origine non plus n'est pas encore sûre, mais la Suède accuse la Russie, façon pour le Kremlin de durcir le ton face à la France, analyse le général Vincent Desportes, ancien chef de l'école de guerre.
Les Russes n'ont pu percevoir que comme agressif cette pénétration du porte-avions français en Baltique où jusqu'à présent aucun porte-avions français n'avait jamais pénétré. Donc ils ont juste fait savoir à la France que c'était un acte hostile et eux-mêmes ont donc fait un acte hostile pour expliquer qu'ils répondaient. Vous faites ça, j'ai bien noté, je n'apprécie pas, je vous le fais savoir.
Le Pakistan déclare la guerre ouverte à l'Afghanistan. Message sur X du ministre de la Défense pakistanais. Regain de tension entre les deux pays après de récentes frappes et alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur depuis octobre. Quels étaient ses liens avec Jeffrey Epstein, l'ancien président américain Bill Clinton, devant la commission d'enquête parlementaire américaine? Aujourd'hui, il assure jusque-là n'avoir rien su des crimes sexuels du financier américain mort en prison. Sa femme, Hillary Clinton, entendue cette nuit, demande à ce que Donald Trump soit lui aussi entendu.
Et puis en Ligue Europa, c'est un LOSC renversant qui file en huitième.
Les Lillois devaient impérativement gagner pour se qualifier et ils l'ont fait en domptant l'étoile rouge de Belgrade 2-0. Ils avaient perdu 1-0 à l'aller. Alors pour rattraper son retard, Lille a pu compter sur Olivier Giroud qui a marqué en début de match, Jean Baumel.
Face à l'étoile rouge de Belgrade, Olivier Giroud a inscrit son 300e but en club. Le meilleur buteur des Bleus voulait continuer l'aventure européenne.
Quand je parlais aux mecs avant le match, je leur disais d'une saison sur l'autre, tu sais pas si tu rejoueras la Coupe d'Europe. Et moi, je pensais à moi et peut-être que ça aurait pu être mon dernier match de Coupe d'Europe ce soir. Le vivre pleinement, pas avoir de regrets et tout donner. Et quand à la fin, ça sourit, tu relâches tout.
Le jeune milieu de terrain Ayoub Bouhadi est admiratif de la prestation d'Olivier Giroud, toujours en jambes à 39 ans.
Sur le match, même en général, il démontre bien l'état d'esprit de l'équipe. Jusqu'à la fin, il a tout donné. C'est lui qui met le premier but dès l'entame du match. Ça fait du bien.
Pour l'entraîneur Bruno Genesio, le champion du monde 2018 a été un élément fondateur dans la qualification du LOSC.
Mais il a retrouvé de la fraîcheur, il avait beaucoup enchaîné, il avait besoin. Et dans des matchs comme ça, l'expérience est tellement importante. Et ce premier but d'entrée nous a aussi certainement donné beaucoup de force, beaucoup de confiance. Et on a retrouvé un visage plus conforme à ce qu'on avait pu montrer dans la première partie de saison.
En huitième de finale, Lille affrontera Lyon ou les Anglais d'Aston Villa.
Tirage au sort prévu à 13h, celui de la Ligue des Champions à midi. Et puis ce soir, retour de la Ligue 1, Lens se déplace à Strasbourg à 20h45.
C'était le journal de Clara Gabillet. Il est 7h08 sur RMC. On va filer au 32-16. Il y a Alex qui nous appelle de Gironde. Bonjour Alex.
Bonjour Apolline, bonjour tout le monde.
Comment ça va? Vous êtes chauffeur, vous entendiez ce matin les propos de Jean-Luc Mélenchon. Il y avait beaucoup d'outrance hier, à la fois contre les médias, en soutien réitéré à la jeune garde. Il y avait des propos au Roland antisémite, assez proche quand même de ceux qui ont été tenus par Dieudonné ou Soral cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alex, aujourd'hui de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon depuis la mort de Quentin Derenck?
Non, mais c'est pas que l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'attitude des LFI en général. Ils sont abjects, ils sont... En fait, j'ai l'impression qu'ils marchent toujours avec un caillou dans la chaussure. Ils ont une haine dans leur façon de parler, ils contre-attaquent dès qu'on les met en défaut. Non mais c'est voilà, c'est moi je tiens à signaler que déjà moi je vote blanc, je vote plus depuis plus de 10 ans.
Ah d'accord.
Ouais, c'est la politique pour moi, elle me sort par les yeux, même si j'adore écouter la politique et j'adore en débattre, ouais. Ce qui est paradoxal.
Ouais.
Mais vous ne
voulez plus voter. Vous ne croyez plus en aucun et ça a participé à ça, les outrances, à votre découragement vis-à-vis de la politique.
Ouais, de plus en plus.
Vous faites quoi dans la vie, Alex?
Je suis chauffeur.
Chauffeur, ok, donc vous bossez tout en plus, là, à cette heure-ci, vous êtes quoi? Vous êtes déjà au boulot?
Ah oui, là, ça fait exactement, attendez, je vous dis ça dans deux secondes.
Il est 7h09.
Ça fait 4 heures que je suis sur la route déjà.
Ça fait 4 heures que vous bossez. Quand vous votiez à gauche ou à droite?
J'étais plus à gauche, au vu de ma vie, ouais, j'étais plus à gauche. La droite, bizarrement, l'extrême droite me sort par les yeux, mais j'ai l'impression que mes idées politiques se rapprochent quand même un peu plus de la gauche maintenant.
Maintenant.
Je crois que c'est qu'en prenant de l'âge qu'on...
Merci Alex, en tout cas, d'avoir témoigné. Comme Alex, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 32-16 pour venir réagir. 63% des Français disent que désormais, c'est vis-à-vis de la France insoumise qu'il ferait un barrage, une sorte de barrage barrage républicain, je sais même plus comment on appelle ça, barrage républicain, cordon sanitaire, enfin bref, il ferait en sorte que LFI n'arrive pas au pouvoir. Merci Alex, 7h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et sur le WhatsApp et l'appli RMC, de nombreux messages, Victor.
Et notamment en réaction aux propos de Jean-Luc Mélenchon hier soir, on a d'abord Séverine qui nous précise qu'elle n'est pas contre LFI. Elle nous liste certains points du programme, bien-être animal, santé, éducation, sur lesquels elle se rapproche de la France insoumise. Mais elle nous dit peut-être que le problème, c'est la figure de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que pense en tout cas Caroline également. Mais à la question barrage plutôt anti-Rassemblement National ou anti-LFI, elle nous dit voter RN m'est impossible, je ne pourrais que m'abstenir. Et puis un mot d'Hervé qui nous dit j'ai mal à ma France, droite et gauche confondues. Et puis pour ce qui est du barrage, je l'ai fait pendant 10 ans, ça m'a donné 10 ans d'Emmanuel Macron, je ne recommencerai pas.
Voilà pour vos messages, vous continuez à nous appeler au 3216 ou à nous écrire au 0612 424 424. La France peut-elle nourrir le monde? Bonjour Stéphane Layani.
Bonjour.
Vous êtes le président du marché de Rungis, le marché international de Rungis, le plus grand marché d'Europe. Le monde a faim, voilà ce que vous dites. Et votre parti pris ce matin, c'est de dire qu'au moment où le salon de l'agriculture se tient jusqu'à dimanche, la France compte aujourd'hui 4 fois moins d'exploitations qu'en 1970. Et on peut changer cela, on peut sauver notre souveraineté alimentaire. Vous avez même des solutions, votre parti pris dans un instant sur RMC et RMC Story. Il est 7h11.
RMC, Apolline Matin. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Le monde a faim. Et si la France pouvait nourrir le monde ? Bonjour Stéphane Layani, vous êtes le président du marché international de Rungis, le plus grand marché d'Europe. Vous publiez Le Monde a faim, c'est aux éditions du Cherche Midi. Le Monde a faim et la France, est-ce qu'elle pourrait encore se nourrir? D'abord se nourrir, déjà la France, se nourrir seule dans quelques années parce que le nombre d'exploitations dégringole, la relève n'est pas assurée, nos importations augmentent beaucoup plus vite que nos exportations. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que pour vous la bataille n'est pas perdue?
Non, moi je suis optimiste de volonté. Donc je pense que justement, on a changé de paradigme. On a changé de paradigme au niveau mondial où il y a des tensions géopolitiques très importantes sur les chaînes logistiques. Et on a changé de paradigme en France. On a l'impression qu'on est toujours dans les années 70 avec l'abondance alimentaire alors qu'on est sorti de ce modèle. Et je trouve qu'on s'est mis trop de normes par rapport à une production qui peine à exporter.
En fait, on pourrait produire beaucoup plus. Bien c'est sûr. Ce que vous nous dites dans la clé. On pourrait produire beaucoup plus. Mais on s'est mis, effectivement, un certain nombre de contraintes, de normes, à la fois environnementales, mais aussi en termes de taille d'exploitation, en termes d'évolution. En fait, on s'est tout seul bridé.
On s'est auto-bridé. Je donne l'exemple des œufs. Regardez les œufs. Les œufs, les poules, elles étaient en cage. Alors évidemment, pour des raisons de bien-être animal, on a supprimé les cages. Eh bien, maintenant, on importe des œufs qui viennent de nos pays de l'Est, d'Europe, et qui sont faits en cage.
Le poulet, on a beaucoup parlé évidemment du poulet ukrainien, désormais plus de la moitié du poulet qui est consommé en France vient des importations, et notamment dans tout ce qui est aliments transformés. Au fond, est-ce que vous constatez une différence entre ceux qui achètent directement leurs produits, et la plupart du temps ils viennent de chez vous, ils viennent de Rungis, c'est-à-dire qu'ils vont chez leur boucher charcutier, ils vont chez leur primeur, et puis effectivement ceux qui prennent des aliments extérieurs pour les cantines, pour la restauration?
Nous, on les voit pas. Malheureusement, la restauration collective, ce qu'on voit, c'est les gens qui achètent des produits bruts. Et donc, on est, en fait, le terme n'est pas exact, la centrale d'achat du petit commerce, des marchés et des restaurateurs indépendants. Et donc, ça marche très bien. On continue à progresser. On était à 12 milliards l'année dernière. On va être à 12 milliards 4 cette année. Donc, tout va bien. Mais en revanche, il faut savoir que les Français, ils mangent de plus en plus en dehors de chez eux et de plus en plus d'aliments ultra transformés. Et ça veut dire que ça, pour presser sur les prix, on prend des produits de moins bonne qualité qu'on importe.
Et à la fin, effectivement, ce sont aussi nos exploitations qui sont réduites. Ne jamais être en position de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, c'est aussi ça votre parti pris. Au fond, vous dites, on a beaucoup parlé de ce mot de souveraineté, c'est le moment de l'appliquer, la vraie souveraineté alimentaire.
Oui, la souveraineté alimentaire, c'est aussi la souveraineté, on a entendu Alex, des flux logistiques. C'est-à-dire que si on détient les plateformes chez nous, c'est pas comme si elles sont au Benelux, à Rotterdam, à Anvers, au Luxembourg.
Donc ça veut dire toute la chaîne. Ça veut dire en gros de l'agriculteur, le marché, les livreurs, les restaurants et l'assiette finalement du dîner des Français, quoi.
Exactement, exactement. Je trouve qu'on a trop désintermédié tout ça. À partir du moment où on délègue notre alimentation à l'extérieur de la France, eh bien, ça veut dire qu'il se passera des choses.
Quelles sont les solutions ? On doit faire venir des fonds, des investisseurs ?
Alors, moi, j'ai beaucoup de solutions, mais la première solution, c'est déjà l'éducation à l'alimentation. Il faut apprendre à lire et à manger. C'est-à-dire que la proposition d'Olivia Grégoire sur l'éducation à l'alimentation, elle est indispensable, parce que sinon, se développeront les dark kitchens, l'alimentation ultra transformée, c'est très mauvais. Deuxièmement, je pense qu'il faut rendre obligatoire le passage par les marchés de gros pour les produits frais. Bien évidemment, on en a 25, ce sont des marchés de services publics qui sont ouverts à tout, à tous les agriculteurs, et dans des conditions de neutralité, nous on fixe le prix juste chaque jour, c'est le baromètre. Troisièmement, je pense, vous avez raison, qu'il faut créer un fonds d'investissement que je calibrerai autour de 30 milliards d'euros, qui soit public-privé, pour donner...
Un vrai fonds d'investissement sur la souveraineté alimentaire.
Absolument.
Et l'argent irait où ?
Il irait dans des projets d'innovation dans l'agriculture, il irait dans la création de véritables entreprises agricoles, il irait dans le renforcement de la coopération agricole qui est très utile en France.
Une dernière question, Stéphane Layani, vous qui êtes donc à la tête du marché de Rungis. En début de semaine, la ministre de l'Agriculture a exprimé des doutes sur la taille de nos exploitations, leur capacité à rivaliser avec nos concurrents. Elle dit qu'ils sont de taille intermédiaire, qu'on ne rivaliserait pas assez avec les Allemands, les Roumains, les Polonais. Est-ce que vous êtes d'accord avec son diagnostic ?
Je partage ce qu'a dit la ministre Annie Genevard. Je pense qu'on a été totalement traumatisé par cette affaire des 1000 vaches. Et donc, depuis, on est resté à 250 vaches. Alors, bien sûr, il y a des exploitations, ça dépend des exploitations, il y a des exploitations qui tournent à 234 vaches, mais je pense que la loi des grands nombres, elle joue, et on va être obligé de le faire parce que la démographie agricole est en train de tomber.
Quand vous dites la démographie agricole est en train de tomber, je précise qu'une exploitation sur deux est dirigée par un exploitant de plus de 55 ans.
Absolument.
Ça veut dire qu'ils vont être à la retraite dans les années qui viennent, et qu'il y en a déjà beaucoup moins qu'il n'y en avait dans les années 70, et ça vous inquiète.
Oui, c'est vrai.
Donc il vaut mieux des grosses exploitations.
Il vaut mieux des grosses exploitations et de la diversité. Ce qui fait la marque France, c'est la diversité des terroirs.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je recommande votre livre, Le Monde a faim, Stéphane Layani, nourrir les peuples, valoriser les producteurs, préserver la planète. Voilà le titre de votre livre aux éditions du Cherche Midi. Il est 7h20 et c'est un historien, éditeur aussi d'ailleurs, qui rentre dans ce studio, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, un documentaire exceptionnel sur... Paul McCartney, il sort aujourd'hui sur Prime Video. Man on the Run.
Oui, McCartney, le Mozart du 20e siècle, hein, le plus travailleur de tous les Beatles, le premier musicien diffusé en direct dans l'espace. Sa devise, c'est soit on joue, soit on meurt.
Vous nous le racontez dans un instant, ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC. Apolline Matin.
Il est 7h21 sur RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, comme chaque jour, avec Arthur Chevalier. Arthur, on sent que vous faites plaisir ce matin, parce que vous avez choisi de nous parler de Paul McCartney, et on y sent une certaine passion. Aujourd'hui, c'est la sortie d'un documentaire événement sur la plateforme Prime Video, ça s'appelle Man on the Run, et c'est consacré donc au chanteur Paul McCartney.
Oui, et plus particulièrement aux années qui ont suivi sa séparation avec les Beatles. Le documentaire révèle des archives inédites de la vie du chanteur. Un événement mondial, puisque Paul McCartney, c'est le plus grand musicien de la deuxième moitié.
Voilà, vous l'avez carrément dit comme ça.
J'ai dit comme ça, en début de chronique. Hein. Eh bien oui, puisqu'en fait, tout ce qui a touché Paul McCartney dans le domaine de la musique, Apolline, il faut bien le dire, tout s'est transformé en or. Hein. Et ça a commencé dès ses 18 ans, en 1960, avec John Lennon. Ils fondent un groupe de rock, les Beatles. Help, En moins d'une décennie, les Beatles vont enchaîner les tubes et devenir un véritable phénomène de société à l'échelle planétaire. 600 millions, c'est le nombre d'albums des Beatles vendus à ce jour, un record absolu.
Paul McCartney, il avait quel rôle au sein des Beatles ?
Alors, c'était le plus travailleur, hein, j'insiste là-dessus. Il a écrit l'écrasante majorité des chansons avec John Lennon, mais surtout, c'est lui qui, tous les jours, appelait chaque membre du groupe pour leur demander de venir en studio, hein, pour les faire bosser, si vous préférez. Sans lui, les Beatles n'auraient jamais fait une telle carrière, ni connu un tel succès. Et forcément, McCartney a fini par en avoir marre, hein, de porter tout le monde à bout de bras. En 1970, coup de tonnerre, sans prévenir personne, il quitte les Beatles, c'était la fin d'une époque.
Et le début d'une nouvelle.
Et oui, puisque comme je vous le disais, McCartney, c'est un travailleur acharné. Sa devise, c'est soit on joue, soit on meurt. Il remonte à cheval immédiatement après les Beatles et il forme un nouveau groupe avec sa femme, Linda. Ce groupe, ça s'appelle les Wings. Et c'est justement cette période que raconte le documentaire. Et là encore, évidemment, ça va cartonner, hein. Plein de tubes, dont un morceau mythique qui sera la bande originale d'un James Bond en 1973, Live and Let Die.
C'est aussi et surtout un musicien surdoué.
Eh oui, le Mozart du XXe siècle, hein, le mot n'est pas trop fort d'ailleurs sur certains albums. C'est lui qui joue tous les instruments, hein, de la basse, de la batterie, de la guitare, du piano et même de la trompette qu'il joue depuis ses 14 ans. C'est aussi un précurseur puisqu'on lui doit un des premiers albums électro, ça s'appelait McCartney 2, c'était en 1980. Il a aussi composé beaucoup de musique classique et il a bien sûr collaboré avec les plus grands, dont un duo absolument génial avec Michael Jackson, ça s'appelait Say Say Say. C'était en 1983. Incroyable, hein ? Quelle chanson !
J'adore, ça fait grand plaisir, je vais l'écouter toute la journée, Arthur, grâce à ça. Sa notoriété, elle dépasse même la planète Terre.
Oui, déjà parce qu'en 1983, des scientifiques lui rendent hommage en donnant son nom à un astéroïde, hein, l'astéroïde McCartney. Ensuite parce que, alors ça c'est incroyable, c'est le premier artiste à avoir été diffusé en direct dans l'espace, hein. En 2005, alors qu'il donne un concert en Californie, le show est diffusé en même temps dans la Station Spatiale Internationale. Aujourd'hui, Paul McCartney a 83 ans. Un de ses derniers morceaux, c'était fin 2025, une chanson sans musique ni parole, juste du silence, en signe de protestation contre l'intelligence artificielle.
Extraordinaire.
Extraordinaire.
Et ils se répondent, je dois vous dire que depuis des années, avec mon mari, on s'est dit, lui il dit, quand même le meilleur c'est Michael Jackson. Moi je dis non, c'est Paul McCartney, donc on se réécoute.
Ah, bien sûr.
Et on se fait un vrai, genre non, regarde, c'est mieux ça. Ça c'est mieux, ce duo est extraordinaire. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Vous voulez réécouter la chronique? N'hésitez surtout pas, ça se passe sur le podcast ou l'application rmc.fr. C'est l'heure des vacances, parce que vous le savez, c'est votre dernière chance cette semaine. Dans Apolline Matin, vous allez remporter vos prochaines vacances à la mer ou à la montagne. Un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellembrun, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Vous allez pouvoir choisir parmi 45 destinations dans les plus beaux endroits de France où Bellembrun s'occupe des enfants. Je dis bien que Bellembrun s'occupe des enfants, des activités et des repas, c'est le tout compris premium. Pour emporter vos vacances, c'est maintenant que ça se passe. Vous envoyez vacances au 7-32-16. Vacances au 7-32-16 et le gagnant sera en direct avec moi à 8h20. Bonne chance à tous.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bellembrun. Bellembrun Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Il est 7h26 sur RMC. Restez bien avec nous. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis c'est vendredi. Et le vendredi, c'est le jour du débat. Voix de droite, voix de gauche. Cécile Duflot face à Charles Consigny. Et ce débat autour des municipales, quelles alliances? Est-ce que ça a rebattu toutes les cartes? L'enjeu est-il national ou municipal? Le débat, c'est donc à 7h50, voix de droite et voix de gauche. Il est 7h26, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est l'un des freins à l'égalité salariale. La maternité à poste équivalent, les mères de 3 enfants gagnent près de 30% de moins que les pères. De l'amiante dans des jeux pour les tout-petits, vendus dans les magasins Jiffy, Action ou Emma. Ils ont été retirés des ventes hier. Et puis aux États-Unis, Hillary Clinton s'est défendue devant la commission d'enquête sur l'affaire Epstein. Et aujourd'hui, c'est à son mari, l'ancien président Bill Clinton, de passer sur le grill.
Les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes ont encore la vie dure.
Elles se résorbent un peu chaque année, mais à un rythme très lent et même moins soutenu que les années précédentes, selon l'étude publiée hier par l'INSEE. C'est simple, au train où vont les choses, il faudra encore 54 ans pour réduire l'écart à néant. Et ça s'explique principalement parce que les femmes occupent des postes moins rémunérateurs et davantage à temps partiel. Mais il y a un autre élément qui vient creuser l'écart, c'est la maternité. De 5,8% entre les femmes et les hommes sans enfants, il double après une première grossesse et passe même à plus de 28% pour les mères de 3 enfants, Célestin Bougère.
À la naissance de son fils, il y a 18 ans, Valérie a décidé de quitter son emploi dans la grande distribution.
Pour trouver un travail avec des horaires compatibles avec la crèche, puis toute évolution d'un enfant en bas âge.
Elle est maintenant conseillère pour les demandeurs d'emploi. Son salaire a largement diminué.
Je me suis assise sur 1000 euros mensuels.
C'est aussi un coup d'arrêt pour sa carrière, un sacrifice que son compagnon de l'époque n'a pas eu à faire, ce qui se ressent sur la fiche de paie encore aujourd'hui.
On était en effet sur les mêmes salaires il y a 18 ans, puisqu'on faisait le même métier. Lui, il a bien gagné 1500 en plus par mois, et moi au jour d'aujourd'hui j'en ai encore 500 en moins. C'est souvent les femmes qui font l'effort le plus important.
Pour Rebecca Amselem, économiste et fondatrice du collectif féministe Les Glorieuses, certaines mesures permettraient de réduire ces écarts.
Le fait qu'il y ait un congé maternité qui soit plus long que le congé paternité, ça a des conséquences sur les opportunités en entreprise. Nous, une des mesures phares, c'est vraiment d'avoir un congé parental équivalent pour que tous les travailleurs et travailleuses soient à un même niveau d'égalité.
L'économiste rappelle que les écarts de salaire touchent toutes les femmes en France, pas seulement les mères de famille.
À 7h32, la SNCF, plus que jamais sur les bons rails. La compagnie ferroviaire a dévoilé hier son bilan annuel et ses résultats sont très positifs. 1 milliard 800 000 euros de bénéfices, c'est 16% de plus sur un an. Mais attention à ne pas s'emballer, cela ne fera pas baisser les prix des billets, prévient le PDG du groupe Jean Castex. Une anomalie française, rappelle le président de la Fédération nationale des usagers des transports, François Delettra.
La SNCF est prise en étau par son État actionnaire qui n'a pas l'argent pour entretenir le réseau. Donc, il demande à la SNCF de faire des bénéfices qui sont colossaux. Et pour faire ces bénéfices qui sont colossaux, la SNCF n'a pas d'autre moyen que d'augmenter ses prix. Une situation assez unique en Europe où ce sont les usagers qui financent le réseau ferré, alors que dans tous les autres pays d'Europe, c'est l'État. Le réseau ferré, il appartient pas à la SNCF, il appartient à l'État. Donc, c'est à la République à l'entretenir et pas aux passagers.
Des jouets pour enfants retirés de la vente à cause de la présence d'amiante. Décision prise hier par la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes. C'est elle qui a lancé l'alerte sur ces jouets à base de sable, Rachel Sadodine.
Jusqu'ici vendus dans les magasins Jiffy, Emma ou encore Action, il s'agit de figurines, de cartes, de magnettes, de sable magique. Ces poudres aux couleurs vives faites par exemple pour dessiner. Toutes les références de ces produits sont sur le site internet rappel.conso.gouv.fr. Si jamais vous possédez l'un de ces jouets, rassurez-vous, d'après la Direction de la Consommation, il ne représente pas de risque aigu pour la santé des enfants car la texture humide du sable limite les risques de dispersion de fibres d'amiante. Malgré tout, mieux vaut dorénavant les tenir hors de portée de vos enfants. Dans l'idéal, ranger les jouets dans leur emballage d'origine, puis dans un sac fermé hermétiquement. Mais attention, pas question de les jeter directement à la poubelle. Les objets contenant de l'amiante sont soumis à des règles particulières. Il vous est donc conseillé d'appeler votre collectivité en charge de la gestion des déchets.
7h34, c'est ce qu'on appelle renvoyer la patate chaude. L'ancienne candidate démocrate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, réclame que Donald Trump soit entendu sur ses liens avec le pédocriminel Jeffrey Epstein. Antoine Hollard, vous êtes le correspondant d'RMC à Washington et c'est au cours de son audition devant la commission d'enquête que l'ancienne chef de la diplomatie américaine a formulé sa demande pour tenter de s'en sortir.
Oui, l'audition de Hillary Clinton a tourné au règlement de compte politique qui avait clairement pour la droite une volonté de se faire, entre guillemets, l'ex-première dame. Elle a été cuisinée pendant plus de 5 heures et face aux questions des élus républicains, elle a répété en boucle qu'elle ne connaissait pas Jeffrey Epstein, qu'elle ne l'a jamais rencontré et que ni elle ni son mari n'ont eu connaissance de ses crimes, en tout cas avant qu'il ne soit condamné. Hillary Clinton, qui est également en contre-attaque et demande à la commission de convoquer Donald Trump pour que le président s'explique sur ses liens avec Epstein, une demande reprise par les élus démocrates. Alors aujourd'hui, ce sera au tour de Bill Clinton, témoignage très attendu. L'ancien président est cité 2000 fois dans les dossiers Epstein. Il y a surtout ses photos qui semblent montrer une très grande proximité avec le pédocriminel. Il va donc devoir fournir des explications. Sa ligne de défense, on la connaît. Il assure qu'il a fréquenté Epstein uniquement dans le cadre de ses activités philanthropiques. Je regrette de l'avoir rencontré. Voilà ce que Bill Clinton a notamment écrit dans ses mémoires.
Et puis c'est l'information de la nuit. Le Pakistan a déclaré la guerre à l'Afghanistan après une offensive des talibans hier à sa frontière. Plusieurs bombardements ont été constatés, notamment à Kaboul. Il est 7h36, retour de la Ligue 1 ce soir avec en ouverture de la 24e journée le déplacement du RC Lens à Strasbourg. Les Lensois qui réalisent une saison exceptionnelle, dauphin du PSG. Et pour leurs supporters, c'est bien simple, le titre est à portée de main.
Bah moi je pense que la Ligue 1 peut le faire hein.
Cette année c'est faisable avec les joueurs là qu'on a recrutés, ça va être faisable. Déjà la Ligue 1 là on est sûr que c'est bon, on peut aller chercher le trophée je pense.
Pour moi oui c'est faisable, pour moi tout va jouer avec Paris, mais le match contre Paris ça, c'est là que ça va jouer.
Bien sûr c'est faisable, faut avoir la foi et puis on y croit.
Et Paris va perdre des points donc si on gagne, déjà si on gagne tous nos matchs on est champion. On peut même faire encore quelques erreurs parce que je pense que Paris va pas tout gagner.
Un coup d'envoi du match à 20h45 à vivre évidemment sur RMC. Et puis Lille a réalisé l'exploit hier en Serbie et file en huitième de finale de la Ligue Europa grâce à sa victoire 2-0 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Lillois qui affronteront soit Lyon soit Aston Villa en huitième. Tirage au sort aujourd'hui.
Et puis le quintet, Élise, c'est à Vincennes.
20h15 et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui c'est le numéro 14, Yalto d'Hertal. L'outsider c'est le 13, Je rêve du bois.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37 et au 32-16, vous êtes nombreux à réagir au meeting et aux propos de Jean-Luc Mélenchon hier soir. John est avec nous. Bonjour John.
Bonjour.
John,
bonjour,
vous êtes jeune, vous avez 28 ans, vous êtes technicien de production à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel regard vous portez là-dessus, vous?
Sur les infos, ils sont plus tout à fait exacts, donc je suis à Lyon maintenant et j'ai fait du procédé en chimie.
Ah, super. Vous êtes à Lyon maintenant, vous avez un bon boulot, vous êtes content?
Je suis content. Ouais.
Moi, content. Bon, c'est déjà bien. John, vous vouliez réagir effectivement aux propos de Jean-Luc Mélenchon. J'allais dire depuis un peu la mort de Quentin. Vous-même, vous hésitez à voter pour lui ou pas?
Merci Apolline donc de me prendre au 32-16. Bah en fait je voulais défendre un petit peu donc Jean-Luc Mélenchon.
Ouais.
Parce que en fait c'est ce que je remarque aujourd'hui, donc je suis pas un militant LFI ou quoi que ce soit. Donc en fait j'ai un peu une vision neutre de la chose, donc je regarde un peu toutes les infos et c'est tellement facile aujourd'hui de taper sur Jean-Luc Mélenchon et la gauche en particulier que en fait j'en suis un petit peu arrivé à un point où je me dis mais pourquoi un tel acharnement? Donc je m'intéresse un peu à la politique, donc ce sera la première fois que je vais voter pour 2027.
D'accord.
Parce que, j'ai été naturalisé il y a pas longtemps.
Ok.
Et en fait ce qui m'a donné envie d'être naturalisé français, c'est justement l'envie en fait le vivre ensemble. Donc on est sur un drapeau tricolore bleu blanc rouge, en fait ça donne envie sur en fait du vivre ensemble. Et ce que je remarque aujourd'hui, c'est que il y a tellement de partis qui prônent la division que à un moment donné on n'en peut plus. Quentin, c'est regrettable ce qui s'est passé donc pour la mort de Quentin, mais en fait il faut regarder les faits. Ce qui s'est passé, c'est que il avait rien à faire là. Donc pour moi, la mort de Quentin, jamais sur le collectif Nemesis.
C'est-à-dire, vous la mettez pas sur ceux qui tapent et qui
vous savez
qu'ils sont quand même mis en examen pour homicide volontaire, c'est-à-dire pour meurtre.
Oui,
c'est pas, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste une bagarre parce qu'ils seraient au mauvais endroit. Il y a un acharnement pour tuer. C'est ce que disent en tout cas, c'est ce que dit le parquet.
Bien sûr, Apolline, donc je condamne totalement.
Non, parce que vous me dites les faits, je trouve important de préciser les mots qui ont été utilisés par le parquet.
Bien sûr, Apolline, donc je condamne totalement la violence. Et je me dis, en fait, effectivement, la violence n'a rien à faire dans le débat politique. C'est un échange d'idées, des points de vue qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est la société, on n'aura jamais les mêmes points de vue.
Et pour vous, mais il y a plusieurs choses dans ce que vous disiez. Vous dites notamment, vous estimez qu'il y a un acharnement contre la gauche? Ou contre LFI?
Contre LFI en particulier, parce que aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que c'est la mort des partis conventionnels. Aujourd'hui, tout ce qui était républicain, tout ce qui était socialiste, c'est fini. Donc sur 2027, on s'oriente vraiment sur...
Ça vous donne envie de voter pour qui, John, aujourd'hui? Vous allez voter LFI, finalement?
Je me laisse le temps de la réflexion, mais j'ai toujours été sensible à des idées de gauche, parce que le vivre ensemble, parce que en fait, c'est tellement facile de taper sur... Je regarde plusieurs médias, c'est tellement facile de taper sur tout ce qui est étranger ou autre. Moi, je l'ai été. J'ai été et je me suis senti stigmatisé à un moment donné.
Vous arriviez d'où, John? Vous êtes né où?
Je suis né au Gabon.
D'accord. Et donc, pour vous, aujourd'hui, c'est aussi sur cette question-là, vous vous dites, LFI répond davantage à cette question-là. Le Parti Socialiste, pour vous, ne répond plus à ces questions-là.
Le Parti Socialiste, aujourd'hui, je me sens pas représenté par le Parti Socialiste, par exemple. Parce que leur ligne politique, aujourd'hui, elle est tellement, pour moi, elle me semble tellement éloignée des valeurs de la gauche, aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Il n'y a personne pour moi qui incarne donc ce visage-là de la gauche chez le Parti Socialiste.
Merci beaucoup, John, d'avoir appelé au 32-16 et d'avoir témoigné ce matin et réagi. Il est 7h41 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et Victor, comme John, ils sont nombreux les auditeurs à réagir au propos de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, parole d'électeur. D'abord Karima qui nous dit qu'elle a toujours voté Jean-Luc Mélenchon, mais que cette fois il va trop loin dans ses propos, des propos qui la choquent. Elle nous dit, c'est clair, la prochaine fois, je vote Parti Socialiste, les socialistes qui me paraissent plus sains dans leur dialogue. On a aussi Laurent qui nous dit que la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon sont en train, je cite, de faire le jeu du RN. Ils sont contre tout et pour rien. Voilà pourquoi je ne vote plus la politique comme ça ne m'intéresse pas. Et puis on a Pierre également sur le WhatsApp RMC qui nous dit qu'il a toujours voté à droite, qu'au deuxième tour, la plupart du temps, en tout cas les 3-4 dernières fois, il avait voté blanc. Je ne me suis toujours refusé à voter RN, nous dit-il, mais j'y pense si jamais aux prochaines municipales il y a une possibilité pour que la France insoumise passe chez moi. Vous continuez à réagir sur le WhatsApp d'RMC. Je vous rappelle le numéro 06 12 424 424.
Et puis à suivre sur RMC, l'affaire Epstein des magistrats en France. Analyse des documents dévoilés par la justice américaine. Maître Cathy Richard est avec nous. Bonjour maître.
Bonjour.
Vous êtes avocate de l'association Innocence en danger. Est-ce que ça signifie qu'il y a de potentiels témoignages et des victimes françaises? Combien sont venus s'adresser à vous? Vous nous le dites dans un instant.
RMC. Apolline Matin. RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h45 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Un mot avec vous, maître Cathy Richard. Bonjour.
Bonjour Apolline.
Vous êtes l'avocate de l'association Innocence en danger et en France, des magistrats disent analyser des documents dévoilés par la justice américaine sur le pédocriminel, l'affaire Epstein qui passait beaucoup de temps à Paris. On parle de potentiels témoignages de nouvelles victimes françaises d'Epstein. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Eh bien oui, tout à fait. Depuis 2019, à l'association Innocence en danger, nous avions alerté par le biais de l'article 40 le parquet français en disant cette affaire ne peut pas être qu'américaine. Nous savions que Epstein venait régulièrement en France, qu'il avait un appartement en France. D'ailleurs, il a été interpellé aux États-Unis en revenant de France. Et donc, nous savions aussi que son côté pédocriminel ne s'arrêtait pas aux frontières, c'était une certitude. Alors, nous avons été entendus en 2019 puisqu'il y a eu le volet Brunel qui s'est ouvert. Malheureusement, on est resté sur Brunel qui était un rabatteur d'une agence de mannequins pour Epstein, mais celui-ci s'est suicidé en détention. Et l'instruction s'est terminée. On dit qu'il y a une extinction de l'action publique quand quelqu'un
elle est rouverte. Elle est rouverte. Alors, et des femmes se sont manifestées auprès de vous.
Alors, auprès de l'association. Elle n'est pas rouverte l'instruction, mais en revanche, effectivement, le parquet s'est emparé et du volet Epstein américain et de toutes les files pour les étudier, du point de vue de la sexualité et du point de vue de la finance. Et ça, c'est pareil, les flux financiers, nous, on souhaite vraiment qu'ils soient étudiés parce que il y a une vraie interaction entre la finance et le sexuel chez Epstein. Et puis aussi, le parquet a dit qu'ils allaient revoir aussi les éléments qu'il y a dans le dossier Brunel. Alors, nous avons fait un appel à témoins que nous renouvelons, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, qui ont peur de s'adresser à la justice, à la police, et nous avons ouvert une ligne internet, à ces paroles aux victimes, @innocenceendanger.org, et effectivement, nous avons pu collecter un certain nombre de témoignages, de témoins ou de victimes. Alors, aujourd'hui, si je vous donne un chiffre, il ne veut rien dire.
Puisqu'il évolue. Après, soyons clairs. Vous continuez à avoir des témoignages qui arrivent.
Voilà. Soyons clairs, il y a des choses qui sont complètement, on voit bien que c'est un peu délirant. Il y a des choses très sérieuses, Donc, il faut que nous sommes 5 avocats, nous prenons contact avec les gens, on parle avec eux et ensuite on voit avec eux ce qui est le meilleur pour eux et pour la justice française.
Mais cet appel, au fond, à ce que les victimes ou les témoins puissent se manifester auprès de vous, vous le relancez aujourd'hui à notre micro ce matin. Merci beaucoup, maître Cathy Richard, avocate donc de l'association Innocence en danger. Il est 7h48 et dans un instant, eh bien parce que c'est vendredi, c'est le débat. Voix de droite, voix de gauche. Charles Consigny, voix de droite. Cécile Duflo, voix de gauche. Bonjour à tous les deux. Dans un instant, je vous poserai la question des municipales. Les municipales, est-ce que c'est un test national? Est-ce qu'on est en train, au fond, à la faveur des municipales, de replacer les différentes alliances des uns, des autres? Est-ce que c'est un révélateur national? Vous nous le dites dans un instant, il est 7h48.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC. Apolline Matin.
Il est 7h49. Dans un instant, le duel du vendredi, le débat voix de droite, voix de gauche. Mais d'abord, le bonus RMC Victor, avec le retour de l'une des chanteuses francophones les plus écoutées du monde.
Alors, ça n'y ressemble pas forcément, mais c'est bien du Angèle. Le nouveau titre sorti hier soir de la chanteuse belge, il s'appelle What You Want. Rassurez-vous, il y a aussi du français dedans.
Encore une bêtise, c'est tout ton maquillage sur ma bouche.
Nouveau titre en duo avec le groupe Justice, plus électro forcément que les précédents. Le dernier album d'Angèle, c'était en 2021. Alors pour ses retrouvailles, elle a rassemblé hier soir 10 000 fans. Où ça ? Bruxelles, évidemment, place de la Monnaie qui était noire de monde, autant de fans et il y en a encore bien plus qui attendent avec impatience un prochain album.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
C'est vendredi, il est 7h50 et c'est le débat RMC. Bonjour Cécile Duflo. Et bonjour Charles Consigny.
Bonjour.
Le premier tour des municipales, le 15 mars donc, élection censée être locale, mais qui commence à avoir une résonance véritablement nationale, avec notamment des alliances qui se forment ou se divisent, les alliances notamment avec LFI qui divise à droite, les fractures entre LR, macronistes, candidats indépendants ou le RN. Charles, de votre côté, vous avez écouté Jean-Luc Mélenchon hier, pour vous c'est pas tellement un meeting local, c'est un meeting national.
Voilà, alors moi je pense pas que les alliances au niveau local préfigurent quoi que ce soit sur le plan national. Ce que je pense en revanche, c'est que d'abord dans beaucoup de villes s'exprime un désir d'alternance. On le voit au Havre où Édouard Philippe est fortement menacé, on le voit à Lyon où Jean-Michel Aulas est quasiment déjà donné gagnant, on le voit à Marseille où le maire sortant Benoît Payan est menacé par le Rassemblement National, on le voit à Paris où Rachida Dati va probablement, enfin peut-être en tout cas gagner contre la gauche. Donc tout ça à mon sens traduit surtout un désir d'alternance et effectivement certaines formations commencent déjà la campagne présidentielle. Je pense que c'était le cas hier de Jean-Luc Mélenchon.
Cécile.
Oui.
Je vous écoute.
Oui, alors moi ce que je crois c'est que d'abord je vais pas faire un peu mémé Cécile, mais les municipales c'est un peu particulier. En gros, quand un maire se représente, et c'est une statistique qui est assez immuable depuis des dizaines d'années, dans 70% des cas il est réélu. Il ou elle d'ailleurs, mais majoritairement il. En revanche, c'est ce qui est sûr, c'est que localement, la plupart des candidats et même des militants n'ont pas tellement envie de faire une campagne nationale, mais que les leaders nationaux des partis, eux, ils s'en emparent et ils essayent de vouloir donner des leçons. Mais pour tout dire, parfois, il y a un certain nombre de militants qui font campagne localement qui trouvent que leurs chefs nationaux leur rendent pas service.
Leur rendent pas service avec cette question, effectivement, Charles. Est-ce qu'il faut... La campagne, elle a été percutée aussi par la mort de Quentin Derenck. La question du cordon sanitaire qui se pose à nouveau. Ce sondage qui montre que désormais, les Français seraient plus nombreux à faire un barrage républicain contre LFI que contre le RN. Est-ce que ça rebat les cartes?
En tout cas, ce qui rebat un petit peu les cartes, je trouve, c'est le positionnement pour l'instant de Jean-Luc Mélenchon. Puisque moi, je... pariait plutôt sur le fait qu'il allait s'arrondir, profiter de l'inexistence en l'état du Parti Socialiste / de la gauche modérée. Et en fait, il fait un choix inverse qui est de se radicaliser. Avec un discours hier, effectivement, au relent... étrange avec cette histoire du nom de Epstein, prononcé plusieurs fois sous les rires de la salle. J'ai pas encore écouté tout à fait l'extrait, donc je peux pas me prononcer complètement. Mais bon, manifestement, il choisit une sorte de ligne dure qui me paraît difficilement explicable et qui prête le flanc à ceux qui veulent dire tout sauf la France insoumise. Mais peut-être qu'il pense que électoralement, il est payant pour lui de se présenter contre le seul candidat anti-système de l'élection.
Et vous, Cécile, qu'en pensez-vous ?
Alors moi, j'ai un petit exemple qui n'a pas été beaucoup regardé, c'est qu'il y a eu des élections municipales partielles dans une moyenne commune de l'Île-de-France qui s'appelle Villeneuve-Saint-Georges, oui. Commune où le député LFI avait gagné l'élection avec 60% des votes sur la commune. Quelques mois après, quelques mois après, il s'est présenté aux élections municipales et Jean-Luc Mélenchon est venu faire un grand discours très national, justement pour expliquer que ça allait être une leçon, etc., etc. Au final, dans une commune qui est très à gauche, il a perdu contre deux listes de droite, donc dans une triangulaire qui est normalement imperdable. Donc je ne crois pas du tout que les positionnements nationaux aient un effet positif.
Il s'agissait de Louis Boyard, je crois.
Hein. Exactement, ouais. Pardon, je n'ai pas cité son nom, il s'appelle Louis Boyard, il est toujours député d'ailleurs, et il a lourdement perdu l'élection municipale. Ouais. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une bonne stratégie de nationaliser les élections, ni pour les candidats en campagne, mais par ailleurs, à l'inverse, tirer des leçons nationales d'un scrutin municipal, là aussi c'est un peu erroné. Ça donne une coloration, c'est vrai, on l'a vu notamment avant que la gauche arrive au pouvoir, les élections municipales de 77 avaient montré une vague qui était en train d'arriver, mais là les positionnements internes et tactico-tactiques entre partis, à mon avis, ça se plante. Pourquoi ? Parce que les gens, ils s'intéressent au prix de la cantine, à l'état de nettoyage des rues, ils s'intéressent à la qualité du parc. En fait, les citoyens, ils sont quand même un peu éclairés, ils savent pour qui on vote et pourquoi on vote aux élections municipales, et ils se positionnent là-dessus. Ça paraît un peu ras des pâquerettes, mais c'est finalement, quand on regarde les choses, très vrai.
Charles Consigny, à Paris, Pierre-Yves Bournazel, qui sera d'ailleurs mon invité à 8h30 tout à l'heure, qui est candidat censé représenter normalement Édouard Philippe et Gabriel Attal, qui a dit ni Dati ni Grégoire et qui a été lâché par Édouard Philippe. Comment vous expliquez ça ?
Mais parce que, je le dis sans animosité, pour moi, Pierre-Yves Bournazel, avec la liste qu'il défend et le positionnement qu'il a, est un boulet pour Édouard Philippe. Parce que quand il a sur sa liste Clément Beaune, qui est vraiment le macronisme finissant, Marlène Schiappa, qui est le macronisme fini, quand il explique qu'il voudra se maintenir, y compris de manière à saboter une éventuelle alternance à Paris, et qu'il continue à s'entêter dans ce positionnement on est de droite et de gauche, on est tous ensemble, dont les Français ne veulent plus, alors qu'Édouard Philippe fait, on peut lui reconnaître ça, ne fait pas semblant d'être à la fois de droite et de gauche, il s'assume d'une droite tranquille, d'une droite cool, entre guillemets. Je pense que c'est un boulet pour Édouard Philippe, donc je pense qu'Édouard Philippe a raison de couper cette branche pourrie.
Le RN qui veut transformer sa dynamique nationale en conquête municipale, est-ce que ça c'est crédible, Cécile ?
En fait, on verra que le sujet numéro un, c'est quand même pour eux de conserver. D'ailleurs, comme pour tous ceux qui ont gagné des villes sur une forme de dynamique nationale, ça vaut pour les écologistes par ailleurs. Donc je ne crois pas du tout que, en fait, une campagne nationale qu'on veut décliner au niveau municipal, ça marche pour des raisons aussi. Là aussi, je vais faire mémé Cécile, qui ont des raisons personnelles. C'est-à-dire que les candidats, c'est aussi des humains qui ont des liens, qui s'entendent bien ou pas. J'ai vu un article sur les stratégies d'alliance à gauche qui descend dans des communes de 10 000 habitants. Mais dans des communes de 10 000 habitants, il y a 25 militants très motivés. Donc, c'est parfois même compliqué de faire des listes aux élections municipales. Donc, en tirer des grands enseignements nationaux, c'est n'importe quoi. Et sur Paris, ce qui est intéressant, justement, c'est de montrer qu'il y a aussi eu des histoires, des tensions, des choses qui rendent humainement des fusions impossibles. C'est assez beau. Enfin, moi, j'aime bien cette dimension humaine de la politique. C'est pas fait par des machines, justement, c'est pas fait par des espèces de soldats d'une cause, mais par des gens engagés, des gens qui ont des valeurs et parfois aussi qui ont des histoires humaines les uns avec les autres. C'est comme ça qu'il faut regarder des élections municipales, parce que c'est aussi le premier pas de l'engagement politique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à des élections municipales, il va y avoir plein de nouveaux élus qui vont peut-être aussi revivifier la politique des années qui viennent, parce qu'on sent bien, là, pour le coup, je suis d'accord en partie. Merci. Avec Charles, qu'on est dans un cycle un peu finissant.
Merci Cécile Duflo, Charles Consigny, tous les vendredis, les 7h58. À tout de suite pour la météo du journal.